Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le, je sais plus, le 21, hein? Perdu la date, ou le 22, je sais plus. Avril, ça doit être bientôt le printemps. Vous écoutez Flash sur le monde par Elise Mbok pour Radio Silence. Il est vrai, il y a. On va dire quoi, depuis la dernière fois, une petite semaine, voire une dizaine de jours de flottement, d'absence d'émission, c'est que l'environnement africain est dur et il y a eu les nouvelles mangues, voilà, et ces nouvelles mangues sont terribles, la saison des mangues, parce que déjà il n'y a pas de pluie dans le coin, le secteur où je suis, et dans ma campagne, et. Ces mangues-là ont souvent l'inconvénient de provoquer des paluds, des maux de ventre et ce qu'on appelle d'installer des parasites dans le corps. Alors, je suis tombée là-dedans. C'est très douloureux et surtout quand vous tombez dans l'économie médicale campagnarde, pas seulement, hein, c'est-à-dire le système D. Qui fait qu'il y a beaucoup d'infirmières libérales qui sont en fait, et d'infirmiers d'ailleurs, qui sont en fait pas déclarés, et qui dont on ignore beaucoup de choses sur la formation parce que c'est pas surveillé. Alors, attendons, et comme d'habitude, c'est toujours les plus chers. Voilà, vous tombez dans un engrenage où les maux de ventre continuent. Bon, finalement, au bout d'une semaine, sans dormir, vous allez à l'hôpital avec des soins approximatifs qui calment pas. Vous allez à l'hôpital. C'est vrai que les infirmières n'ont pas d'appareil pour faire les examens appropriés. Et puis à l'hôpital, bon, on fait ce qu'on peut, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et l'inconfort est là. Mais toujours est-il dit que je peux vous parler si bien parce que c'est quelque chose vraiment, il faut le vivre. Hein. Je ne savais pas que ça existe, ces choses-là, ça vous bloque. C'est carrément comme si vous aviez les intestins bloqués, attachés, vous êtes bloqué. Voilà, à peine si vous arrivez à respirer, des douleurs, vous ne dormez pas la nuit. Y a-t-il un protocole? On vous dit non, c'est les amibes, je ne sais même pas c'est quoi. Donc ils ont un protocole collectif, mais pourtant il faut faire les examens appropriés et qui montrent très bien qu'ils vont arriver à solutionner le problème. Bien, c'est la raison du petit flottement qu'il y a eu. Et là, je vais pas dire que ça va, hein. Il y a toujours un inconfort, mais ça peut aller. Ça peut aller et ça va être l'occasion d'essayer de mettre en évidence des choses qui, vous savez, quand vous êtes immobilisé, les choses vous apparaissent sous un autre angle. Et là, si j'ai pensé à l'économie africaine, pas africaine, l'économie du sous-développement des zones pauvres, comme on dit, de l'Afrique, où vous savez, la Banque mondiale dit. En Afrique, il y a des zones où on vit avec moins de 2 dollars par famille, par jour. Bon, moi, je n'ai pas vu ça ici. Hein. Le moins de 2 dollars par jour, je n'ai pas vu ça ici parce que d'abord, ce n'est pas possible. Les familles sont quand même, comment on va dire, au moins, on a celles qui ne sont pas nombreuses, c'est le père, la mère. Et deux, trois enfants, on est quand même plutôt cinq, et puis parfois des cousins qui traînent par là ou des enfants orphelins. Donc moins de 2 dollars par jour, c'est pas possible, surtout que le coût de la vie est excessivement cher. Alors comment ça se passe maintenant que les gens sont entrés dans le sauf qui peut? J'ai vécu une histoire rocambolesque qui me permet justement d'extrapoler, de dire mais. Il y a une guerre de la terre ici, parce que les gens ne savent plus à quoi s'accrocher. Ils vivent au jour le jour, ça c'est vrai, ou la saison, la saison. Et la terre est devenue de l'or. Mais alors, curieusement, puisque ces terres sont pas titrées, mais ça vous appartient quand même, il y a tout un comportement qui consiste à prendre les choses par force, surtout si vous, vous voulez vous engager dans une activité de grande envergure. Ça ne marche pas. Il y aura tout de suite des actes de blocage, des actes de sabotage, des actes de sorcellerie, des menaces de mort. C'est partout ici. C'est absolument incroyable, surtout que ce n'est pas réglementé, parce qu'il faut un travail herculéen pour régler la question de la terre dans les campagnes africaines. Et il faut surtout, bon, on ne va pas dire une volonté, ça va de soi, il faut surtout, ah, je ne sais pas, un grand travail d'éducation. Les Africains n'ont pas eu des rois. On dit qu'il y en a eu avant, mais depuis la colonisation, il n'y a plus de roi. Et ça fait que c'est des êtres qui grandissent un peu entre une forme de, je veux dire, d'anarchie. Voilà, une forme d'anarchie. Et dans cette anarchie se loge tout ce qui est terreur, tout ce qui est terrorisme, tout ce qui est violence, tout ce qui est acte de bravoure, tout ce qui est. Vous pouvez imaginer. Donc, c'est contre le développement, tout contre le développement. Alors, ces actes, le sous-préfet est là. Moi, par exemple, je m'en suis plaint auprès de la sous-préfecture parce que quand vous êtes avec eux, vous ne pouvez pas. Ça veut dire que vous arrivez, vous trouvez la forêt là, il faut pas toucher. Voilà, les gens n'y ont pas touché, n'ont pas travaillé. Mais si vous touchez, ah non, non, ou alors ils viennent, ils s'intercalent. Juste pour saboter le projet dans son ensemble. Et il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours parce que toutes les autorités sont disqualifiées en quelque sorte. Et disqualifiées pour plusieurs raisons, ces raisons anarchiques. Et aussi parce qu'il y a une culture ambiante qui part du. Alors vous allez voir à la fin ce que ça donne, qui part du village, des campagnes, qui s'étend en ville et qui se retrouve à l'international où tout le monde est dans la bravache comme ça. C'est le culot. J'ai du mal à trouver les mots vraiment pour dire ça sans être brutal. Donc, je m'en suis ouverte au sous-préfet, il faut faire un courrier, tout ça, tout ça. Alors, le sous-préfet, il n'a rien compris parce que on appelait le chef, bon, c'est le chef du village, là, des illettrés, qui vient. Et qu'est-ce qu'il peut dire? Il se contredit. Alors, le sous-préfet décide, il dit, bah, ah, moi, je viendrai sur place. Il y a ici ce qu'ils appellent descente sur le terrain pour régler le litige foncier sur place. Bon, on attend. On attend ce que ça donnera, mais toujours est-il dit qu'on a un retard de tellement de choses en Afrique sur un plan opérationnel et sur le plan pragmatique. C'est-à-dire que, alors j'ai été complètement halluciné pratiquement d'entendre que le préfet, le nouveau préfet, parce qu'on avait un ici qui est parti à la retraite depuis longtemps, il partait pas. Ici, vous arrivez à l'âge de la retraite, vous pouvez prolonger, à condition d'être dans le parti. Et vous êtes déjà fatigué, forcément, l'usure du pouvoir, ou plutôt, vous en foutez. Et ce préfet aurait fait un discours, il est venu ici parce qu'il prend ses fonctions, donc il fait la tournée. Il a fait un discours sans concession. Et tout le monde en est revenu totalement transfiguré par ce discours, parce qu'ils ont entendu. Alors, j'ai eu deux versions. La version d'une conseillère municipale, qui est un peu approximative dans son niveau intellectuel. Et puis, il y a la version plus authentique. D'une personne qui a un niveau d'éducation et qui comprend les choses. Alors, il y a des recoupements. Les recoupements, c'est que le préfet est arrivé, c'est très bien, c'est quelqu'un du nord, il ne fait pas partie du sud de la Magouille ici. Nous sommes dans le sud et il est arrivé, il a dit clairement qu'il entend des choses. Et lui, il est venu pour abolir tout cela. Ces choses-là, c'est lesquelles? Premièrement, Il entend que nous vendons du terrain ici et il a demandé, mais les Bassa. Ah, j'ai dit Bassa, je précise, hein, parce que j'ai entendu en France qu'on a écrit un livre sur Oumiobé, le père de la résistance camerounaise pour les indépendances. C'est normal, c'est de bonne guerre, je suis là, alors il ne faut pas que j'écrive. Non, 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 on va trouver quelqu'un là-bas qui va écrire. De toute façon, dès que je suis arrivé, Macron a envoyé une équipe, il faut parler des indépendances africaines. Vous allez voir les recoupements de tout cela à la fin. La zone Bassa, il a dit, il entend qu'on vend le terrain. Pourquoi vous vendez du terrain alors que vous n'avez pas une autre richesse que celle-là? C'est-à-dire qu'économiquement, ça ne pèse pas, le Bassa, sur le plan économique. Et ce qu'il a, c'est la terre, cette terre, donc il peut être un bon producteur, sauf que la concurrence entre eux et l'individualisme est tel qu'ils ne peuvent pas avoir de grands projets parce que bon, chacun fait son petit projet à côté. Et l'association a des petits projets, ça ne donne jamais un véritable grand projet. Ils ne travaillent pas ensemble. Et surtout, il leur a fait comprendre que mais la terre que vous vendez et ne vous appartient pas, vous ne l'avez pas acheté, vous l'avez trouvé, c'est un héritage. Donc vous devez avoir à cœur de la conserver et de la garder pour les prochaines générations. Donc vous ne devez pas vendre la terre parce que vous n'avez pas d'autres richesses. Ça, c'est des choses que le FM, non, la Banque mondiale est très loin de comprendre, loin là-bas avec ses grands idéaux. Mais il y a des basiques, les basiques. Comment on transmet la terre aux autres? Sans entrer dans une braderie, il y a des gens ici qui ont tout vendu. Il ne reste plus rien. Et ils vendent à qui? Aux vautours. Alors, ça contribue non pas au développement, parce que ces gens, ils ont beau dire, c'est des allogènes, ils viennent d'ailleurs, que des villages, ils ont beau dire, oui, on va le faire, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. C'est faux. C'est faux. À la limite, ils aspirent l'énergie locale et des habitants sur place qu'ils finissent par jeter comme du rebut. Ces habitants ne comptent plus pour rien, ils regardent leur terrain comme ça. Mais la mentalité et le manque d'éducation et le manque de suivi de l'État est tel que on assiste à un approfondissement de la pauvreté, à une forme de prédation entre les Noirs sur ces questions-là. Donc le préfet met ça en évidence. Et il met en évidence le fait que, bon, il est arrivé là, ça je le dis pour que la Banque mondiale l'entende, hein, parce que les experts viennent leur raconter je ne sais pas quoi là-bas, et il leur dit, il a dit au maire, parce que c'était tout le monde y allait, hein, chacun a eu droit à sa part, ça c'est déjà pour les habitants, absence de solidarité, absence de vision intergénérationnelle, et surtout une gloutonnerie comme ça, vous vendez, vous voyez le million, vous vendez, et puis après vous n'avez plus rien. Donc, absence de tout bon sens en fait. Et au maire, il lui dit, je suis arrivé ici, vous êtes le seul à voir la voiture de la mairie, on voit que le maire. Voilà. La mairie n'a pas d'autre véhicule que celui où le maire est assis, un pick-up, il trône, il trône. Mais non, la mairie devrait avoir des véhicules qui sont à la disposition, soit des projets d'habitation, soit, pas des projets d'habitation, pardon, des habitants. Oui, des projets aussi, des habitants, aller les accompagner peut-être dans les forêts, dans les champs, dans les exploitations, créer une dynamique qui fasse que, au final, la mairie aussi peut générer une véritable activité, y compris du transport, et avec cela, participer au tissu économique, mais rien est social. La mairie n'est pas là, elle fait rien. Bon, il n'y a pas d'ambulance, hein, c'est un hôpital petit comme ça. La mairie aurait pu quand même, puisque ce sont les prérogatives de la décentralisation, que la mairie s'occupe de l'hôpital, bah, il n'y a pas de voiture. Il dit, bah, c'est pas normal. La mairie participe à quoi? Lorsque les agriculteurs produisent, comment on achemine la récolte? La mairie peut être là pour ça, et c'est pas. On lui a même demandé, le préfet, pardon, lui a demandé, mais êtes-vous seulement au courant du tonnage du cacao qui est produit sur votre territoire? Question fondamentale, parce que c'est une question qui rejoint la question des impôts et la question aussi du dynamisme. quasi industrielle, parce que le cacao, c'est très important. Alors, mondialement, à l'international, cette année, le prix du kilo a bondi presque à 4 000 francs, alors qu'il était à une époque à 1 000 francs. C'est du CFA, hein, vous diviserez par 6,77, quelque chose comme ça. Et c'est grave que dans votre bassin, qui est un bassin très important ici de production du cacao, vous n'ayez pas le tonnage. Pourquoi vous n'avez pas ce tonnage? Parce qu'il y a beaucoup de petites, de micro-sociétés qui se sont installées, qui font de l'export-import du cacao et qui passent à travers les mailles du filet, ou plutôt, apparemment, elles vont voir le maire et lui donnent quelque chose, on ferme les yeux. Donc toute la richesse s'évacue comme ça, soit est donnée aux halogènes, soit est donnée aux affairistes, soit est donnée en bakchich à la mairie, le territoire au final n'a rien. Et il termine, parce qu'il paraît qu'il a dit des choses extraordinaires, la foule n'est pas habituée à ça, tout le monde était pétrifié, les autorités avec, en disant au maire que, mais voilà, il y a la population, il y a un grand projet de barrage ici, un bébé qui cote, qu'on appelle, on est par rapport à ici au centre, quelque chose comme 20 km, il y a besoin, il paraît qu'on devra embaucher 400 ou 4 000 personnes, c'est un chiffre énorme, vous savez, pour un barrage. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de restaurant, grand restaurant pour manger, fiable. Alors ils leur demandent, mais où sont tous ces projets-là? Qui va construire les logements? Les gens auront besoin de logements, les gens auront besoin de manger, les gens auront besoin de se déplacer. Hein? Et il y aura la carrière, il faut une carrière, on aura besoin de gravier. Mais où sont ces projets-là, monsieur le maire? Monsieur le maire ne peut pas répondre parce que lui en particulier, l'État confie une usine pour transformer le manioc. Il a pris l'usine, il l'a posée comme un éléphant blanc dans son village. L'usine est fermée, tout équipée, il n'y a pas de manioc. Mais il n'y a pas de manioc parce que la mairie ne suscite pas, n'encourage pas la production du manioc, ne le suit pas cela pour que ce manioc puisse nourrir l'usine. Donc, souligner tout ça, aller expliquer ça à la Banque mondiale qui envoie l'argent, je ne sais pas à qui, soit parfois des prêts, soi-disant ils font ci, ils font ça. Et ça, c'était pour le maire et pour le sous-préfet. Chacun en a eu pour son grade. Ah, moi, je demandais à cette copine qui me racontait ça, elle m'a dit, mais j'ai dit, mais on n'applaudissait pas. Elle me dit, ah, personne n'aurait pu applaudir, tellement c'était dur. Et que le préfet, il a amené un discours, il a posé ses feuilles de côté, il s'est mis à parler comme ça, voilà, sans feuillet. Alors, il leur a dit au préfet, mais je suis arrivé ici, je vous ai demandé une liste des élus. Je vous ai demandé une liste des élus, moi donné une liste des élus, mais je vous ai dit de me mettre le nom de l'élu, sa fonction, enfin de l'élu, l'élite, parce qu'on parle des élites, hein, vous savez, les gens qui sont riches dans un coin, sa fonction et ses réalisations. Alors, il dit qu'il a vu effectivement le nom des élites, il a vu, ce sont les caciques des partis politiques en général, hein, ou ceux qui ont des fonctions à Yaoundé, là. Il a vu les statuts, mais il n'a pas vu de réalisation. Tout ce que le sous-préfet a pu marquer, le pauvre vient aussi d'arriver, il est désolé. Il a dit que l'élite entretenait de bonnes relations avec les autorités. Le préfet dit que ça lui parle pas du tout, ça l'intéresse même pas. Il veut savoir ce que chaque élite a pu faire sur le territoire, la réalisation, le concret. Parce que ces élites, que ce soit parlementaires, que ce soit administratives, que ce soit même électives, c'est-à-dire le genre conseiller de ci, conseiller de ça, elles ont parfois. Pas parfois, elles ont toujours la possibilité d'avoir un peu un budget pour intervenir sur des actions concrètes sur le territoire, des actions sociales, des actions éducatives, des actions agricoles, etc. Ça manque pas, mais elles font pas. Et quand ils le font, ce sont des faveurs. Ce sont des faveurs. Et il n'y a pas eu pas de suite. Le sous-préfet aussi, bah, qu'est-ce qu'il pouvait-il dire? Il vient d'arriver, ça fait 2 ans, bah, il va dire quoi? Il constate aussi, comme le préfet, malheureusement, que cette élite ne fait rien. Et pourtant, elle est gratifiée en permanence au niveau national par des postes, par des fonctions de plus en plus hautes. Et que sais-je encore? Alors, il y a beaucoup de choses, j'en oublie, mais je vous cite les plus significatives qui font que quand on parle du développement ici et du développement local, les gens même au niveau du local ne sont engagés en rien. La population, parce qu'elle est méchante à la base, parce qu'ils sont engagés dans des guerres de concurrence et d'obstruction, et de rejet de l'autre. Moi, je ne parle pas de mon cas parce que c'est carrément hein, incroyable. Et les autorités sont là, elles ne flottent pas, mais un peu perdues. Et l'élite qui devrait porter les projets pour aider ces autorités à travailler aussi dans un co, comment je vais dire, un copartenariat. Il n'y a pas, il n'y a pas. Alors la Banque mondiale envoie l'argent, je ne sais pas à qui, au ministère, qui va faire quoi, il est tellement loin, il n'y a pas d'audit. Je me réjouis d'ailleurs que le président, le nouveau président sénégalais, Bassirou, président Bassirou, il a commandé un audit à son premier ministre sur l'état, la situation du pays. Ça, c'est très, très, très intéressant, parce qu'on ne peut pas travailler sans une visibilité. Des problèmes sans un audit au moins. Alors le préfet, il a demandé cet audit et il paraît qu'il a dit, de toute façon, le développement passera parce que là où lui il va, il y a du développement. Et qu'on le veuille ou pas, si ce n'est pas les habitants locaux qui veulent y participer, il fera le nécessaire que ce soit les halogènes qui viennent et qui fassent le travail. Donc, à bon entendeur, salut. Et du coup, on est là dans l'expectative. Qui va donner l'impulsion? Bien sûr que ce sont les administrateurs, les autorités qui doivent donner l'impulsion. Et comment viendra cette impulsion? Si, voilà, on ne sait même pas par où commencer. Ça veut dire que la décentralisation est arrivée ici trop tôt, dans des conditions démagogiques, impréparation et tout, et tout, et tout. Mais ça, ce n'est pas grave d'arriver comme ça. On peut toujours rectifier le tir. Et c'était la bonne nouvelle de ce préfet. Et on attend comment les choses vont se décanter. Mais ça va être extrêmement compliqué. Parce que d'abord, la lenteur est. Je veux dire, inscrite dans les gènes de l'administration, alors quand c'est alors le tempo hors temps de l'homme africain, ça devient quelque chose de d'hallucinant. Donc voilà un peu la géo, comment je vais dire, la géo, je peux même pas, c'est pas une géopolitique ça, c'est l'économie locale, comment elle fonctionne, parce qu'elle fonctionne à vide. Tout le monde est producteur ici, hein, c'est-à-dire le commerçant, il vend ses trucs, il va tout le temps en ville, il s'approvisionne, il vient, il vend ses tomates et tout ce qu'il veut. Le producteur, il vend, il fait ses ignames, il fait ses macabo, il fait son plantain, il fait son cacao. En fait, il vend pour l'exporter aussi, aller vendre en ville. Il mange un peu. Entre les deux, le producteur et le commerçant, il n'y a pas trop d'effet d'entraînement. Vous voyez, c'est un peu chacun qui fait son business à côté. Et donc, l'économie locale tourne à vide et sur place. Effet du sur place, il n'y a pas moyen de booster cela. Qui plus est, il n'y a pas la culture qu'on a vue ailleurs dans le monde, c'est-à-dire de casser tout ce qui est laid, tout ce qui est tout dit, tout ce qui sert à rien dans la ville, qui est dépassé, pour construire quelque chose de nouveau. Non, ça appartient, c'est ceci, c'est cela. On est dans des blocages. C'est pas ancestraux, ça n'a pas de sens. Sur place, locaux, indigènes. Ces blocages. Alors quand il se tourne, voilà, le chef s'est donc tourné vers le préfet. S'est tourné pour finir vers les grands chefs traditionnels. Ah, les chefferies traditionnelles. qui relèvent de la tradition africaine, c'est un désastre. Ils servent à quoi? Ce sont des auxiliaires de justice, en principe, dans ce sens qu'ils doivent être au courant dans leur secteur de litige de ce qui ne marche pas. Mais ça, ils sont au courant, quelque part en deuxième position, après la gendarmerie et la justice qui les informe de convoquer les gens, etc. Mais ces chefs, j'ai discuté tout récemment avec un commissaire spécial qui m'a dit, mais les chefferies, vous voyez un chef qu'on désigne dans un village, il vit dans la maison de son grand-père, c'est-à-dire une forme de taudis. Qui est là, il n'a aucune autorité morale. Et quand on vient, on leur dit, vous voyez, l'histoire de faire voter la participation locale des citoyens à la décision, c'est ça les chefferies. On arrive, présentez-nous votre chef quand la délégation arrive et on leur montre quelqu'un qui habite un taudis, c'est lui le chef. Comment il fait pour être chef? Il n'a aucune autorité sur les gens. Donc, même les chefferies, les chefaillons, on va dire, sont dépassés, complètement dépassés. D'abord, ils ne sont pas formés, ils ne suivent pas. Et quand on fait l'élection, vous savez, comme toute élection, c'est truqué. Au final, ça tourne aussi à vide de ce côté-là. Le chef n'a aucune autorité morale, aucune autorité de prestige, aucune autorité d'exemplarité. Tout le monde ici, dans les pays Bassa, 80% vivent dans les maisons de leurs grands-pères, qui sont en terre battue, bricolées. Ensuite, on peut peindre, mais c'est un désastre. Donc, il faut reformuler la façon de désigner les chefs. Et peut-être, au final, qu'est-ce que ça va donner? L'État devra revenir ici et poser des conditions sur les candidatures des chefs, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un logement quand même qui ressemble à quelque chose, vous ne pouvez pas être chef. C'est clair, parce qu'il n'y a pas l'exemplarité qui va avec, et surtout il n'y a pas la dépendance et la mendicité qui peuvent aller avec, et la corruption aussi. Voilà, ça c'est l'Afrique locale. Alors, faut l'apprendre vraiment à la base, hein, à la base. Mais c'est pas différent de Yaoundé, la capitale ou ailleurs. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en France, on avait l'habitude de penser qu'on était rejeté parce qu'on était noir. Vous arrivez ici, vous serez rejeté vers la même discrimination, pas parce que vous êtes noir, parce que vous venez de l'étranger, ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Et c'est marrant d'ailleurs. Et vraiment, vous avez en face de vous une agressivité telle que beaucoup fuient, parce que ça passe par tous les moyens pour vous expulser de leur système là où ils vivotent. Bon, évidemment, ils sont à plus de 2 dollars par jour, mais bon. Ce que je vais dire, quand même, pour mettre ça en rapport avec ce qui se passe aux États-Unis, pour comprendre peut-être que c'est l'âme humaine qui est prédisposée comme ça à la discrimination et à l'animalité, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous voyez ce qui se passe avec Trump et Biden, Monsieur Biden, en 2016. Il n'a pas fait campagne. En 2020, pardon, il n'a pas fait campagne. Il s'est planqué parce qu'il comptait sur le vote par correspondance, où il savait qu'ils allaient tout trafiquer parce que les machines l'ont même montré que vous pouvez, en introduisant un bulletin, obtenir exactement ce que vous avez programmé. C'est-à-dire, vous votez oui, ça sort non. Vous votez deux fois, ça sort cinq fois. Voilà. Des choses comme ça, c'est-à-dire pour deux voix, la personne, c'est l'électronique en sort cinq. Bon, c'était du tout cuit. On continue d'ailleurs à trouver des votes par correspondance, par-ci et par-là. Ils ont compté sur ça, ils ont tout misé sur ça, il a gagné. Bon, on a montré, démontré que, évidemment, c'était du tout cuit. Alors, cette fois-ci, il n'y aura pas de vote par correspondance parce qu'il n'y a pas de Covid. D'accord, on ne pourra pas dire aux gens, vote par correspondance, parce qu'il ne faut pas contaminer. C'est tout du tout cuit. Tout huilé, très bien huilé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des procès pour stopper Monsieur Trump. Alors, malgré les procès multiples, là, ces derniers temps, on assiste à quoi? On assiste à une forme d'arrêt de M. Trump, on l'oblige à être présent au tribunal 4 jours par semaine, ceci pendant 2 semaines que durera le procès d'une péripatéticienne qu'il avait vue, une certaine Stormy Daniels, et qui en 2016, bah, ça c'est normal, hein, voulait vendre l'affaire, la mèche, parce qu'elle a senti le fric. Et il fallait bien le prix du silence, mais tous les hommes font ça, le prix du silence. Alors maintenant, ce qu'ils veulent démontrer, c'est qu'ils sont de très, très bons juges, des bons démocrates. Ils vont dire que oui, mais ça a été payé par les frais de campagne et, qu'ils ne sont, et ce paiement n'est pas apparu dans les frais de campagne. Donc, il y a eu une fraude avérée. Du coup, M. Trump est condamnable. Pour fraude, mais et montage et faux en écriture. Sauf que ça, dans la loi électorale, ça aurait dû être réglé depuis, par en 2016, là, depuis, ça doit être réglé par l'impossibilité. Enfin, il y a un délai où on vous dit vous êtes non éligible pendant 4 ans, par exemple. C'est un truc qui ne se règle pas. Parce que par le format qui est employé, ça c'est une autre justice électorale qui règle cela. Donc déjà, la justice qui prend en charge ce procès-ci pour condamner Trump est un faux panel, est un panel abusif et qui est illégitime, totalement illégal même, parce qu'il y a une autre justice pour juger des questions d'irrégularité des frais de campagne. C'est pas celle-ci. Et c'est pas une justice qui vient après, je vais dire, c'est en 2016, et c'est pas une justice qui vient, on a envie de dire, 8 ans après. Mais non, ça n'a pas de sens. C'est passé. Les frais de campagne sont contrôlés. Dès le lendemain, alors si on découvre ça par, je ne sais pas comment dire, hein, c'est extraordinaire, on découvre ça plus tard, le pot rose, un truc qui était connu, et on fait tarder, 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 jusqu'à ce qu'on soit à la dernière ligne droite de la campagne pour sortir ça. C'est malicieux, c'est pervers, et c'est très malsain, c'est très malsain. C'est aussi un sous-développement total là-bas du côté de la démocratie, enfin la démocratie, la justice en ce moment. Donc on piège les gens. Trump était vraiment, il avait le vent en poupe. Comment faire? Comment faire? Une histoire de prostituée. Pardon, excusez-nous, on a mieux à faire. C'est pas une mineure. C'est une femme qui vend ses services pour cela. Ok, il y a eu des tout. Mais ça, c'est les frais de campagne. Et en plus de ça. C'est pas la seule. Enfin, c'est pas la seule. Toutes les stars qui se baladent nues, là, dont on fait l'apologie, et marchent nues, elles font leur concert nues, les femmes nues, il y en a, voici, en voilà. Qu'est-ce qu'on vient parler aux gens de prostitution maintenant? Ce sont vraiment des faux problèmes. Est-ce qu'elle a été violée? Oui, là, ce serait autre chose. Et encore, c'est pas aujourd'hui qu'on en parlerait. Vous avez dit, vous avez été violée depuis, vous êtes adulte et tout, vous vous plaignez pas. Hein? Et vous demandez de l'argent. Une fois que vous avez demandé de l'argent, l'affaire est close. Vous avez obtenu justice. Donc, il y a des choses qui trahissent l'âme humaine d'une façon extraordinaire. Qui disait, l'être humain n'est mauvais. Bon. Et que c'est comme ça. Et un autre philosophe disait, non, l'être humain n'est bon, mais c'est la société qui le rend méchant. C'est un débat qu'on ne peut pas clore parce que les démocrates ont atteint un niveau d'obscénité et de marchandage de toutes les institutions. La perversion est telle qu'on n'a pas de mots pour dire. Sauf que quand on pense à ce qu'Israël a fait à Gaza, hein, en détruisant comme ça, sans vergogne, on s'est dit c'était le prélude à ce qui va arriver à ce qui peut arriver à M. Trump, c'est-à-dire que la démocratie, on s'assied dessus, les droits de l'homme, on s'assied dessus, on tue comme on veut, on détruit tout ce qu'on veut, on fait élire n'importe quoi. Et cette justice, elle sert à ça. Elle sert à ça, stopper un candidat qui a le vent en poupe, afin qu'il n'y arrive pas. Les médias complices se taisent ou font des articles encore plus pervers, plus qui vont dans une insinuation. Et le pire, le comble de tout ça, c'est que le peuple assiste à ça sans rien dire, complètement tétanisé parce que chacun a peur, chacun veut protéger son petit beefsteak tous les jours. Ils oublient que leurs grands-parents se sont battus pour que eux, ils aient ce beefsteak tous les jours et que s'ils continuent à se comporter comme les Bassa ici qui vendent tout le terrain pour leur propre confort, en oubliant le lendemain, ce sont leurs enfants qui vont retomber en esclavage. C'est prévu. Alors, c'est à ne plus rien comprendre. Surtout que Joe Biden, alors il a complètement donné, les sondages baissaient, 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 baissaient. Et il s'est dit non, non, on ne soutient plus les actions d'Israël, on ne va plus rien faire, blablabla. Qu'est-ce qu'il fait? Là, tous les parlementaires ont revoté un gros budget pour financer Israël, pour financer Zelensky de l'Ukraine, qui sont très contents. Oui, merci beaucoup, l'Amérique et tout aussi. Mais l'Amérique, c'est qui? La grande arnaque de cette fin de siècle, c'est que tout ce qui est élu, là, parlementaire, les politiciens, on va dire, gouvernement, ce sont des gens qui, on ne voit même pas dire qu'ils poursuivent leur agenda, je ne sais pas trop quoi, mais le régime parlementaire qu'ils représentent est pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux revenir à la royauté, parce que le régime parlementaire est une arnaque. C'est une collection de gens qui travaillent au meurtre organisé, qui travaillent au détricotage de tout ce que la civilisation a pu mettre en place pour la démocratie, qui travaillent à l'injustice caractérisée, et les juges participent à ça. Mais regardez, on vous a parlé de la liste d'Epstein, où on viole les enfants, où on les maltraite, où on en abuse sexuellement, où on les vend à ces riches du monde, et c'est la Clinton Initiative qui était la courroie de transmission de tout cela. Mais ça, ce genre de casse de scandale, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est la petite prostituée, enfin la grande prostituée quelque part qui vend ses services. C'est ça qui intéresse les juges. Mais c'est un monde, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. On a beau être calme, on s'est dit, mais le président Biden lui-même, pris dans la main dans le sac avec son enfant, son fils, sa famille, dans un schéma de corruption avéré, les parlementaires sont incapables de monter l'impeachment. On dirait qu'ils ont peur d'être tués tous, comme on a tué à Gaza. Ils sont incapables, au contraire, ils vendent des armes pour que Biden continue de tuer. Ils sont incapables de commencer la moindre enquête. Et j'en passe. Et ces histoires, des faux couples qui se présentent, deviennent présidents, mais en fait, c'est des couples gays. Mais il y a toute une forme de, on ne peut même pas dire d'absurdité, mais des obscénités qui sont tellement graves que quand on voit des juges, prétendument juges, qui sont financiers, parce que c'est ça la démocratie parlementaire. Vous voyez le régime parlementaire. Vous voyez au Togo, ils ont changé la constitution. Ils sont contents, le régime parlementaire. Oh, on applaudit, mais c'est l'arnaque première. Peut-être qu'il faut rester un régime présidentiel. Au moins, les choses sont claires. Parce que le régime parlementaire, c'est une multiplication des gangsters autorisés, comme dirait Jean Ferrat. C'est que des gangsters. Comment se fait-il qu'on arrive? Ces comportements de gangsters, vous les retrouvez dans les campagnes ici où je suis. Les gens se sont gangsterisés. Vous les retrouvez à Yaoundé, dans les capitales. Les administrations sont gangsterisées. Vous retrouvez au niveau international le gangstérisme généralisé. Et les juges gangsters, mais là c'est, on n'en revient pas. Parce que les juges, ils ont peur. Hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Où l'Amérique trouve l'argent? Elle n'a pas d'argent. Ah, le Sénégal fait bien. Le président sénégalais, le nouveau, M. Bassirou, il demande à ce que ses réserves d'or en Amérique soient rapatriées au Sénégal. Tout à fait, parce que l'Amérique, c'est comme la France. Ils prennent des prêts sur le dos des réserves de l'argent en matière première, de l'argent des Africains. Donc, il faut arrêter ça, ces tromperies. Et les peuples ne suivent pas. Bon, on va juste comme ça, quand même, s'attacher à des hommes providentiels qui vont arriver, comme ce président sénégalais, comme ceux du Niger. On dit que les. Et qui a dit. Fin des partis politiques, oui, parce que les partis politiques, l'opposition, c'est que des traîtres à la nation. On connaît, on les achète, c'est des mendiants, ils ont faim. De toute façon, surtout chez les Noirs, ils ont toujours faim. Ils n'ont jamais repu, mais vous direz pourquoi seulement les Noirs. En France, c'est pareil, les ministres de ce pays, les sénateurs, des salaires de Pacha. Et oui, il n'y a rien aujourd'hui qui prouve qu'un civil est plus à même de diriger un pays qu'un militaire. C'est faux. Moi, je dirais même c'est le contraire, parce qu'on a vu avec De Gaulle. Au moins, le militaire, il a un code de l'honneur. Au moins, le militaire, il apprend la discipline. Au moins, le militaire, il défend la nation. Je ne parle pas du complexe militaro-industriel américain qui est corrompu jusqu'à l'os, qui n'a que la mort dans ces schémas. Il n'y a pas d'élection jusqu'à nouvel ordre au Niger, et avec raison, jusqu'à ce qu'ils mettent en place un système d'équilibre institutionnel tel que pour revenir en arrière, ça va être difficile. Oui, et tant qu'à faire, hein, moi, c'était une arnaque de venir nous dire Joe Biden, civil, serait plus intéressant qu'un général américain qui. Non, c'est faux. C'est même pire, les civils sont les plus grands escrocs qu'on puisse imaginer. Alors, le monde est à l'envers. Et quant à ça, vous ajoutez et leur secte là, vous ajoutez leur organisation souterraine. Donc, Monsieur Eto ici, on va finir par là. Le président l'a fait cafoute du Cameroun. Fait l'objet d'une tribune en ce moment. Il y a eu un imbroglio ici, comme pas possible au Cameroun. Si la FECAFOOT devrait régler ses affaires, mais non. Comme toujours, hein, les abus de pouvoir, ce sont eux, le gouvernement a pris les choses en main. C'est vrai qu'il y a eu des échecs aussi. Donc le gouvernement a choisi son entraîneur. Ah, le président l'a fait cafoute, il dit, ben non, les statuts me donnent le droit de. C'est moi qui sélectionne le sélectionneur, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ci. Oui, mais ça, on a des gueules fortes quand il y a les résultats. Il n'y en a pas. Le Cameroun depuis en régression libre au niveau du football alors qu'ils étaient en pointe. Et ça, c'est normal, parce que c'est le reflet du pays. Le pays est en chute libre. Et donc forcément, que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez attendre de son équipe? Il n'y a rien à attendre, c'est le même bazar. Alors, le noir fait ce qu'il sait faire de bien. Il s'en remet au blanc. Bon, pourquoi pas? Moi, la couleur, ça ne me dérange pas. Mais c'est seulement que le noir devrait comprendre que la solution d'aller voir le blanc pour sortir de ses problèmes n'en est pas une. Comment le blanc a fait pour s'en sortir? Il a essayé, il essayait, il échouait, il essayait, il venait pas chercher ailleurs, il essayait, dans sa force d'essayer, d'essayer, d'essayer qu'on va y arriver. Mais si, dès qu'il y a un problème, ce qu'on trouve à faire, c'est aller chercher. Mais parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre les Noirs, c'est la guerre, entre les Noirs, c'est l'irrespect. Entre les Noirs, c'est l'anarchie. On ne reconnaît pas de mérite parce qu'entre-temps, on a tout mélangé à la façon que je vous ai décrite. Et c'est la Banque mondiale, plus rien. C'est un problème quasiment anthropologique. Et plus rien faire. Qui pourra le faire? Ça, c'était le rôle des dirigeants. Mais eux, ils détestent le peuple. Alors, c'est encore pire. Je sais pas où on va aller. Alors pour finir avec Samuel Eto'o, On se rend compte que tout cet imbroglio arrive lorsqu'il faut qu'il enterre son père, qui a passé, je sais pas, un temps fou à la banque, parce qu'il n'y avait pas de domicile. Bon, enfin, il y a une économie ici funéraire qui est terrible, enfin, qui d'ailleurs rythme le temps, il n'y a plus rien, tout tourne autour de la mort. Et là, qu'est-ce qu'on voit comme image? Oh, les gens sont venus du monde entier, et il y avait même le grand P, ou le petit P, je sais même plus, c'est un nain. Tout mince, mince, fait fin, c'est-à-dire quelqu'un qui ressemble, vous voyez, à E.T. là, du film, il ressemble à rien. Ah, ils sont venus du monde entier, ses amis, pour le voir, et il y a ce monsieur. Ce monsieur, à un moment donné, il était marié à une dame qui était comme en forme de bois. J'ai oublié son nom, on les présentait tout le temps. Donc, on vous apporte des gens qui se disent être en conflit, sont en fait unis par des relations ésotériques, la kabbalistique qui vous montre présentément, c'est-à-dire une association de monstres. Pardon. Je ne sais pas si les gens, beaucoup de gens connaissent le grand P, hein. Il faudra aller sur Google si vous ne connaissez pas pour voir ça. Et quand toutes ces choses-là sortent en même temps, oui, on fait semblant de s'opposer, mais en même temps on est ensemble et puis on embrouille le peuple et vas-y que je t'embrouille. Le peuple ne peut pas s'en sortir parce qu'il faut des vrais dirigeants. Et moi, je suis pour l'arrivée de l'armée. Je suis pour même les rois. Que les rois reviennent parce que la République a été complètement détournée, été bousillée, cassée, ça ne veut plus rien dire. Il faut des hommes forts qui reviennent au pouvoir. À la limite, on suspend tout ça et on rétablit déjà l'ordre. Et après, on verra, parce que vous voyez bien qu'avec ces histoires de médias, de soi-disant démocratie, etc., on arrive à avoir des monsieur Macron au pouvoir, des gens de 39 ans au pouvoir qui n'ont jamais rien fait de politique. Qu'est-ce qu'ils comprennent à la vie? Et il fait ce qu'il peut, ce monsieur. Mais, et pour finir, j'ai appris. Enfin, je vais parler des Jeux Olympiques qui vont arriver, parce que ça va nous fâcher. Bon, amis des radios silence, hein, quand vous voyez Israël tuer, hein, c'est un programme. Hein, c'est un programme qui est destiné à tétaniser les peuples et à leur enlever de la tête toute idée de révolution. Parce qu'alors là, qu'ils sachent que leurs États sont prêts à les anéantir. C'est un message.